que vous ayez passé une excellente nuit. Je vais tout d'abord dire quelques mots sur mes limites. Alors, je ne suis pas un historien du tout. La question de l'histoire de la Fédération sportive et culturelle de France, des patronages, etc. Il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi qui pourraient traiter de ce sujet. Alors, à commencer par Laurence Minoz qui nous rejoindra dans l'après-midi. L'intervention que je vais faire, elle va naturellement aborder la question de l'histoire des patronages, mais je vais le faire beaucoup sous l'angle de mon expérience personnelle. Alors, ça sera très lié à qui je suis et à mon histoire. Il n'y aura pas de PowerPoint, il y aura une petite visio présentant l'histoire de la Fédération sportive et culturelle de France. Et je redis ici, vous le verrez dans les propos que je tiendrai, que je suis religieux de Saint-Vincent de Paul, que je suis aumônier national de la Fédération sportive et culturelle de France et que je suis secrétaire membre de droit de l'Union des patronages. Je le dis parce que il va y avoir un lien entre tout cela. Et puis vous constaterez aussi, on va évoquer des pages d'histoire qui sont d'une étonnante actualité. On va retrouver des choses qui ont été dites hier et qui sont vraiment tellement actuelles. Quand on parle des patronages, le premier nom qui vient, c'est celui de Jean-Joseph Allemand, qui est considéré vraiment comme la grande figure fondatrice des patronages en France. C'est, je le situe, 1772-1836, c'est vraiment après la Révolution française. Voilà. Donc on imagine le choc de cette page d'histoire de France, et c'est à Marseille qu'il va fonder une œuvre cherchant à rassembler des enfants, des jeunes, dans ce contexte post-Révolution française qui a fait une casse énorme sur le plan chrétien, la vie chrétienne, l'organisation des paroisses. Et dans un contexte donné, il va avoir une visite d'un commissaire de police dans l'œuvre qu'il a fondée, et le commissaire de police lui demandant « Vous faites quoi ici ?» Et c'est la fameuse réponse de Jean-Joseph Allemand, « Ici on joue, ici on prie ». Alors, ce qui va devenir en quelque sorte la devise des patronages. « Ici on joue, ici on prie ». La deuxième figure que je vais évoquer, elle est pas française, mais elle a une résonance quand même, c'est Don Bosco, grand éducateur de jeunes, qui donc fonde l'oratoire en Italie, et puis de l'Italie, ça viendra en France. C'est toute la pédagogie de Don Bosco, salésienne, et où il va dire clairement qu'il s'agit de faire de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Rassembler tous ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, en faire de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Et il aura cette fameuse formule, évangéliser en éduquant, éduquer en évangélisant. C'est important, ce lien, voyez. Évangéliser en éduquant, éduquer en évangélisant. Ce lien entre la vie spirituelle, chrétienne, et la vie de la totalité de qui on est, notre vie de tous les jours. Et Don Bosco aura cette remarque, c'était lors d'une visite à Paris en 1883, il dira, c'était à la Madeleine, « Ne tardez pas à vous occuper des jeunes gens, sinon ils ne tarderont pas à s'occuper de vous. C'est d'une étonnante actualité, je le redis. Troisième figure que j'évoque, celle de Joseph-Marie Timon-David. Là, nous sommes à nouveau à Marseille. Nous sommes dans le 19e siècle, bien sûr. Et le père Timon-David va, en quelque sorte, s'emparer de l'œuvre allemande dans cette idée, cette intuition. Mais l'œuvre allemande, c'est plutôt pour des milieux sociologiquement, j'allais dire, aisés, c'est plutôt un milieu de société assez élevé. Et le père Timon-David va vouloir transposer ça, faire ça pour les milieux vraiment populaires. C'est l'œuvre, les œuvres actuelles encore, du père Timon-David à Marseille. Et il insistera sur le fait qu'il faut prendre l'enfant tel qu'il est, prendre l'enfant tel qu'il est. C'est quelque chose qui me rappelle le pape François, ça. Oui. Prendre l'enfant tel qu'il est. Il y a ensuite, dans tout ce cheminement des patronages, dans les années 1833, la Société de Saint-Vincent de Paul, qu'on appelle aujourd'hui les Conférences Saint-Vincent de Paul. Là, nous sommes à Paris, avec toute cette misère et ces jeunes qui sont en apprentissage chez des patrons, souvent exploités et souvent, en quelque sorte, venant de provinces, qui décrochent de leur vie chrétienne et qui se retrouvent à devoir travailler, y compris le dimanche. Donc, la Société de Saint-Vincent de Paul va mettre en place ses patronages, patronner tous ces enfants de façon à pouvoir préserver leur vie chrétienne, vis-à-vis des patrons, exiger qu'ils soient libres le dimanche, voilà. Et puis donc proposer des activités, des jeux. Ici on joue, ici on prie. Et puis il va y avoir, et je suis fier de le dire, issu en quelque sorte de cette Société de Saint-Vincent-Paul, des Conférences Saint-Vincent-Paul, les religieux de Saint-Vincent-Paul, la congrégation des religieux de Saint-Vincent-Paul, dont je fais partie. Et notre fondateur Jean-Léon Le Prévost va se dire, ce que font les Conférences Saint-Vincent-Paul, ses patronages, c'est très bien, mais il y a une certaine instabilité parce que ben voilà, les directeurs, les prêtres, il faut aller les chercher dans les paroisses, ils sont souvent submergés par plein d'autres choses. Comment on fait? Et donc ils fondent la congrégation. Au départ, des frères, des éducateurs, des frères qui vont s'investir dans ces patronages. Et puis, ben voilà, on va se donner des activités, des jeux pas trop, on joue et on prie. Mais, très vite, on va faire ce constat que, on joue, mais on ne prie pas beaucoup. Cette difficulté, toujours, de trouver des prêtres qui vont pouvoir s'investir dans ces patronages. Pas simplement venir, vous voyez, célébrer une messe par-ci, par-là, avoir des heures de confession, mais qui soient vraiment données. Et là, il va y avoir la visite du père Timon-David, au tout début, hein, chez nous, dans nos premiers patrons, et puis, quelle va être sa remarque? Il va dire, non, là, vous épuisez pour rien. On ne prie pas assez, il n'y a pas suffisamment de vie spirituelle, etc. Et c'est intéressant de faire cette remarque ici par rapport à ce qui a été dit hier, hein, par rapport au père Vanquet. Hein, quelle est la place du prêtre? Le père Timon-David ne voudra pas rentrer dans notre congrégation parce que les directeurs, ceux qui étaient à la tête des patronages, c'étaient des frères laïcs. Et il ne concevait pas qu'un prêtre, en quelque sorte, soit dépendant d'un frère, d'un directeur laïc. Non. Mais il avait éminemment raison sur le fait qu'on s'épuisait sans véritable résultat spirituel. Et il va falloir attendre 5 ans, on était fondé en 1845, en 1850, à tout jeune prêtre qui vient d'être ordonné prêtre, qui a été béatifié en 2022, le père Henri Planchard, bienheureux père Henri Planchard, va être le premier prêtre dans notre congrégation. Et là, ça va faire tout basculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, nos patrons, nous, on a le frère et le père. Le frère est le directeur. Le père est là, à plein temps, au patron, tout le temps investi, mais comme prêtre, comme homme de Dieu. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Hein, mais c'est éminemment important. Hein. Et notre fondateur disait, voilà, il faut faire des œuvres sérieuses qui vont au fond des choses. Et pour aller au fond des choses, faire des œuvres sérieuses, il faut aimer. On ne fait du bien aux hommes qu'en les aimant. Les patronages vont se développer surtout à partir de 1850 en France. Au départ, c'est petit, petit. Et on a compté, en gros, dans les années 1858, 32 œuvres de jeunesse. En 1860, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Et on dit, les prêtres, ben, dans les paroisses, etc., ne suffisent pas. En 1870-66, on est à 155 patronages pour la France. Oui, ça se développe, ça se développe. Et on a des réflexions voilà, qui comptent. Il faut bien comprendre que à l'époque déjà, voilà, c'est les années 1870, le contexte est très très difficile sur le plan de l'évangélisation, sur le plan chrétien, au niveau des milieux populaires. C'est rien aujourd'hui, je vous assure, c'est rien aujourd'hui. Si on se plonge dans l'histoire de cette période-là, c'est rien aujourd'hui. On parle d'anticléricalisme, de christianophobie, de tout ce que vous voulez. À l'époque, mais faut voir, faut lire. Faut voir les caricatures qu'il y avait. Voilà. Donc c'était une période extrêmement difficile. Et donc on va faire ce constat que, ben, concrètement, comment rejoindre les enfants pour les évangéliser? Et c'est dans ce contexte que les patronages, l'Église, les prêtres vont s'emparer de ce qu'ils voient, là, de quelques patronages, où on fait jouer les enfants et où on les attire, ce qui va permettre, après, ben, d'évangéliser. Et les patronages vont vraiment se développer à ce moment-là. On a, en 1870, vous voyez, 10 diocèses, hein, qui sont représentés dans un congrès des patronages, 10 diocèses, 36 directeurs. En 71, on passe à 11 diocèses. Et puis le grand essor, c'est à partir de 1882, où voilà, on laïcise l'école primaire. Et cette loi de 1882 qui laïcise l'école primaire va avoir comme effet bénéfique, eh bien, cet immense développement des patronages. Parce que justement, les prêtres se disent, mais voilà, ces enfants qu'on n'a plus à l'école, comment on fait? Comment on fait? Et donc, ben, des patronages, et c'est là qu'il va y avoir un développement des patronages extrêmement important. On va dire, pour forcer le trait, que chaque paroisse a son patronage. Chaque paroisse a son patronage. On n'est pas encore, vous voyez, dans l'univers du sport. On n'est pas encore dans l'univers du sport. On est dans l'univers du patronage où on joue et où on prie. Alors on joue, bah, on fait des jeux qui sont, d'accord, sportifs, le corps bouge, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas encore dans le domaine vraiment du sport tel que nous l'entendons aujourd'hui. Et c'est important, je vous cite une ou l'autre réaction, quelqu'un qui était en 1894, Léon Bourgeois, au congrès de la Ligue de l'enseignement à Nantes, il dit « Je crains plus 10 patronages que 100 écoles catholiques. » Et c'est à cette période, on vous dira, cette même année 1894, qu'il va y avoir l'abbé Esquéré qui réunit quelques garçons sur la place Saint-François-Xavier. Ça va être le début du patronage, du bon conseil. On nous en parlera sans doute cet après-midi ou tout à l'heure dans ce lien avec Esprit de patronage. Entre 1890 et 1900, on passe d'un peu moins de 400 patronages à plus de 4000, vous voyez, en 20 ans. Plus de 4000. En 1913, 5000 patronages qui sont recensés. En 1950, on est à plus de 10000 patronages. Et c'est là qu'il faut resituer dans ce développement important des patronages, eh bien, la figure du docteur Paul Michaud et la création de ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération sportive et culturelle de France, dans ce contexte-là. Alors, on va pouvoir mettre la... Voilà, ça vous donne un aperçu très ramassé de l'histoire de la FSCF et puis globalement aussi de ce qu'elle est aujourd'hui. On a parlé du développement des patronages et lui, il a été évoqué cette étape post-conciliaire qui était lourde de conséquences et qui a été marquée par un déclin très fort, très important des patronages. C'est, on va dire, à partir des années 60. Alors, il y a naturellement un ensemble de facteurs qu'on pourrait analyser, décortiquer, les évolutions de société, mais il y a aussi clairement un choix ecclésial, et un choix de l'Église qui a considéré que l'option était désormais celle de l'action catholique. Et on estimait que les patros c'était un peu l'univers en vase clos, et donc il fallait sortir, fallait aller. Et puis c'est des remarques qu'on entend encore aujourd'hui, un patron, un prêtre, vous investissez un prêtre, pourquoi? Pour faire jouer des enfants, pour qu'ils fassent du sport, enfin quand même un prêtre c'est pas fait d'abord pour ça, c'est fait pour... annoncer l'évangile explicitement, c'est fait pour confesser, célébrer la messe, enfin voilà, c'est disproportionné. Vous voyez, toutes ces heures qu'un prêtre peut passer là, dans un patronage, à l'arrivée, pour quel résultat spirituel? Et vous mettez en parallèle le fait qu'il y avait une chute des vocations, que les diocèses avaient de moins en moins de prêtres, autant dire que soutenir des patronages avec des aumôniers, c'était plus la priorité. Et ça a fondu comme neige au soleil. On entend ça encore aujourd'hui, c'est très actuel, je vous assure, c'est très actuel. Quand vous dites que vous êtes prête et puis que, tiens, vous allez partir 3 semaines en colo avec un groupe de jeunes, on vous dit, mais... Tu vas faire quoi? T'as la messe à célébrer, et puis, t'as des confessions, des célébrations d'autres. Tu t'absentes 3 semaines comme ça, mais il y a tellement d'autres besoins. Il y a des réflexions qu'on peut se faire. Je cite ici... C'est Luc Perrin, dans son livre « La survie d'une œuvre, le patronage parisien », il dit ceci. « Un excellent curé de banlieue me disait un jour tristement, « Autrefois, avec une baraque en planche au fond d'un terrain vague et un seul prêtre, on groupait des centaines de jeunes gens. Aujourd'hui, il faut des maisons de 6 étages où chaque petit groupe de 10 ou 12 membres exige son local et son aumônier. 4 fois plus de prêtres pour 4 fois moins de chrétiens. » Voilà. Je trouve que c'est profondément vrai. Voilà. Et puis, une remarque aussi du père Jean-Marie Petitclerc, qui est très connu, éducateur salésien. Et il disait, on avait, avec les patronages, un formidable outil d'évangélisation. On a choisi de les fermer au moment même où naissaient les grandes cités. Jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas d'autre moyen de rencontrer des gamins qu'avec un ballon à la main. Seulement, à l'époque, une église un peu intello a tout mis par terre. C'est d'abord en jouant avec eux, en passant du temps avec eux, que l'on peut, après, participer à leur éducation et leur proposer leur foi. Je le redis, c'est d'une très très grande actualité. Alors, on pourrait se dire, ben aujourd'hui, où on en est, des patronages. Alors, on va resituer en 1994 sur Paris. Alors, on va dire que on tenait, les patrons à Marseille, père de Timon David, l'Allemand, voilà, c'est des congréganistes, ça a tenu la route. Ça, voilà. Les Salésiens qui ont continué un certain nombre de choses aussi. Le patronage du Bon Conseil avec une histoire aussi qui a connu ses hauts et ses bas, mais voilà, qui a tenu la route. Et puis très clairement, je le dis sans orgueil, mais je le dis très clairement, nos patronages des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, contre vents et marées, on a tenu. Voilà. Une chose très concrète, hein, quand il y a eu cette chute, ce recul des patronages, les paroisses avaient des espaces, des cours, des terrains, tout ça. Et après, ben, ça a été vendu, on a fait des projets immobiliers, et puis, ben, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour faire jouer les enfants, quel espace, on a des salles, oui. Mais, nous, je vous assure qu'au niveau de la congrégation, j'en parle en connaissance de cause, on s'est battu pour dire, face à des projets immobiliers magnifiques, non, on ne touche pas à un mètre carré de la cour, il n'y en a pas trop. Voilà, c'est bien les salles, on en a. Mais une cour, alors on court, on bouge, on fait du foot, on se dépense, on fait du basket, voilà. C'est éminemment important. Donc ça a tenu. Et puis, ben, on va dire dans les années 1994, sur Paris, il y a eu le cardinal Lustiger, forte personnalité, qui a vu que les patronages des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, ben, finalement, regroupaient un ensemble d'enfants, de milieux vraiment populaires, tout venant. Et comme évêque, il se dit quoi? Il regarde les chiffres au catéchisme dans les écoles publiques. À l'époque, on devait être à 10% d'enfants qui étaient inscrits au catéchisme. Ben, comment on fait? Comment on va les rejoindre? Comment on va les évangéliser? Et il se réempare de cette dimension de patronage. Et ça va donner lieu à la FACEL, un organisme vraiment parisien qui regroupe des centres de loisirs d'enfants en lien avec la plupart du temps avec les paroisses. Et puis en 2022, il va se mettre en place aussi une dynamique, parce qu'on se rend compte qu'il y a des patronages qui renaissent ou qui se créent, voilà. Tout simplement pour le même constat qu'a fait le cardinal Lustiger, hein. C'est-à-dire, il y avait des nouvelles générations de prêtres, des jeunes prêtres, hein. Voilà, il y en a quelques-uns là. Et puis il s'en va, il se dit, j'ai plus personne au catéchisme, j'ai combien d'enfants, et les autres ils sont où, comment je vais les rejoindre, comment je vais les évangéliser? Ah! Eh bien, il se réempare de la pédagogie du patronage, et voilà. On attire les enfants, les jeunes, par le jeu, on va faire jouer, ici on joue, ici on prie. C'est l'appât, le jeu, vous voyez, c'est l'appât, c'est l'hameçon, c'est entre guillemets le piège. Voilà, hein. Et voilà, il y a tout un ensemble de lieux maintenant où les patronages renaissent, qui a donné lieu en 2022 à la création, et on en est vraiment au début de l'union des patronages, hein, qui regroupe en quelque sorte des grands organismes. Hein. Au départ, c'était la Focale, il y a eu Esprit de patronage, il y a le Bon Conseil, il y a la FACEL, etc. Hein. Et dans une dynamique de réunir un petit peu toutes ces tous ces grands acteurs des patronages et de travailler à développer, à renouveler un petit peu toutes ces actions de patronage aujourd'hui. Je ne sais plus combien il y a de patronages aujourd'hui en France, c'est plus de 300, hein, je crois. Hein. Donc voilà, ça se développe. Je voudrais maintenant, rapidement, voilà, donner quelques éléments qui sont plus du domaine du témoignage personnel. Du témoignage personnel. Moi, je suis un enfant du patron. Très clairement, je suis d'une famille pauvre, pauvre, pauvre. Et mes parents, comme bon nombre de parents, ben, ils ne voulaient pas que je traîne la rue. On était, vous voyez, sept enfants dans un deux pièces. Bon, autant dire que si on n'a rien à l'extérieur, on va traîner la rue. Mes parents ne voulaient pas que je traîne la rue. C'était pas des chrétiens pratiquants, tout ce que vous voulez, mais alors, donc on te met au patron. Et concrètement, c'était un patronage tenu par les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, donc vous vous étonnez pas si aujourd'hui je suis religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Mais ça a été salvateur, sinon bien sûr j'aurais traîné la rue. Et alors, ben, on est au patron, on joue, il y a toute une ambiance, une atmosphère, un esprit assez indéfinissable. Et puis, ben, dès qu'on est un peu adolescent, préadolescent, adolescent, ben, on va pas se contenter de jouer simplement au baby-foot, au ping-pong. Bon, on a besoin de courir. Faut du sport, faut du sport. Je le redirai là dans quelques instants, mais dès qu'on grandit, on a besoin d'une activité sportive. C'est ce qui nous passionne. Et je jouais au foot. Les équipes de foot qu'on avait à notre patronage, au milieu de Saint-Vincent-de-Paul, la JMM, la Jeunesse Maurice Meillant, voilà, qui est l'un de nos fondateurs. Et on jouait à la FSCF. Nos équipes étaient à la FSCF. Bon, pour nous, la FSCF, c'était la Fédération des patrons. Et quand il y avait un championnat, et quand on avait des tournois, des coupes de quartier, donc entre autres d'arrondissement, du 15e arrondissement, là on jouait contre d'autres équipes qui n'étaient pas de la FSCF. Je pense à l'ES15, l'OP15, c'était le 15e arrondissement, et je peux vous dire que nous qui étions des gars de patron, on redoutait de jouer contre ces équipes-là parce qu'on sentait, on voyait dans le comportement sur le terrain que, ah non, ce n'était pas des patrons, ce n'était pas l'esprit des patrons. Ça se voyait très clairement. Chez nous, on ne va pas accrocher un gars par le maillot, ou alors si on le fait, je vais dire, le coach sur la touche, il va nous reprendre vite, 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 quoi. Hein? On ne va pas descendre un gars parce qu'il va tout seul au but, non. Ça se fait pas, ça se fait pas. Ah, chez les autres, ça se faisait. Et on faisait cette différence très très nettement. Hein. Sans être capable de dire l'aspect chrétien, enfin, tout ce que vous voulez. Bon, donc voilà, cette expérience de patron, moi, personnellement, naturellement, m'a beaucoup marqué. J'étais sportif. Ça me faisait sourire parce que je raconte ça avec humour, mais. J'ai travaillé très jeune et j'ai eu droit à une visite de la médecine du travail. Je passe la visite du travail et elle me dit, c'était une médecin, elle me dit, il faudrait voir à faire un peu de sport. Et concrètement, pas trop, le lundi j'allais à la piscine, le mardi j'avais le judo, le mercredi j'avais le foot, le jeudi j'avais le judo, le vendredi j'avais les entraînements de foot, le samedi j'étais toute la journée sur la cour à taper le ballon, et le dimanche j'étais sur les terrains de foot. Voilà. Et c'est important de faire du sport. Et dans nos patrons, je vais le redire là. Comme aumônier de patron, quand j'étais aumônier de patron, voilà, dans un patron qui, naturellement, avait des équipes de foot, des activités sportives, etc. Mais c'est éminemment important, on le dit sans arrêt, sans arrêt. On est une religion de l'incarnation. De l'incarnation. C'est impressionnant de se dire dans un patron, dans un sport, sur un terrain de foot, mais c'est un lieu de transparence et un lieu de vérité où on voit qui on est. On voit qui on est. Je me rappelle avoir parlé avec l'aumônier du patron où j'ai grandi, d'un gars, hein, d'un jeune qui joue au foot, et l'aumônier qui, hélas, n'allait pas suffisamment sur les terrains de foot, voilà, me parlait, me faisait des éloges de ce jeune, etc. Cette prière, je dis, père, venez sur le bord du terrain de foot, puis vous allez voir quelqu'un d'autre là. Venez, venez, venez. Moi, j'avais un autre angle. Je voyais bien qui était ce jeune. Venez. De par mon histoire, c'est très important, naturellement, la piété, la prière, tout ce que vous voulez, hein, mais je me méfie beaucoup des enfants, des jeunes qui sont trop sages, qui sont trop, voilà, des expressions de grande piété dans l'église, dans la chapelle, dans les célébrations. Je crois beaucoup plus à ce que je vais voir dans le jeu, dans le sport, sur un terrain de foot. Quand j'étais aumônier de patron, mais j'avais naturellement tous les matchs, j'étais sur les bords du terrain de foot. Et c'était éminemment important. On voit, et puis on parle, et puis on tisse plein de liens. Je revois un enfant qui me dit, c'était avant un match, il avait une croix autour du cou, voilà, ça remonte à quelques années quand même, une trentaine d'années, hein, et 20 ans, je crois. Et bon, il me la remet parce que bah, c'est pas pratique, hein, quand on joue au foot, ça... Voilà. Non, il me la remet, un bon gars de patron, vraiment un bon gars de patron. Et puis moi, je prends sa croix. À la fin du match, il revient vers moi. Et alors, pendant le match, il s'était énervé, il avait pété un plomb, comme on dirait aujourd'hui, etc. Et il revient chercher sa croix. Je lui dis, oui, fier, t'as bien fait de me la confier, heureusement que tu ne l'avais pas sur toi. Et là, il a baissé les yeux, comme c'était un bon gars. Il a compris la leçon. Il a compris la leçon. Oui. La pastorale, quand on parle de la pastorale du sport, avant que ce soit des structures, des grandes organisations, c'est la présence là, sur le terrain, auprès de ces jeunes, dans ce qu'ils vivent, on les voit. Et on va tisser des liens de confiance parce qu'ils vont voir qu'on s'intéresse, pas simplement à leur vie de prière, ils vont voir qu'on s'intéresse à tout eux-mêmes et à commencer à ce qui les passionne. Ce qui les passionne, le sport. Vous connaissez beaucoup, vous, d'enfants et de jeunes qui ne vous parlent pas de sport. Mais c'est sans arrêt des sujets de conversation, mais c'est continuel, c'est continuel. Et puis ça chauffe, hein, ça ambiance, quoi, hein, ça ambiance, c'est génial. Et si vous êtes là, vous dites, mais si je ne suis pas là, mais c'est une dimension dans leur vie tellement importante, et puis... Je ne serais pas là, l'Église ne serait pas là sur ce terrain-là. Ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne comprends pas, je vous dis avec ma simplicité, mon franc-parler, je ne comprends pas, voilà, que trop d'évêques ne comprennent pas, voilà, que il faut être dans cet univers du sport, du jeu, du loisir, chez les jeunes. Je ne comprends pas que certains soient encore là, dans une vision des groupes de prière, des choses vraiment typées, cathos, etc. C'est bien, évidemment, mais je n'ai rien contre, il faut. Mais comme dirait le pape François, les périphéries, tous ces jeunes qui ne savent plus rien à rien, comment on va leur porter l'évangile? On se dit, mais ils aiment le sport, c'est des passionnés de sport. Eh bien, allons-y, on fonce! En France, on les rejoint sur ce terrain. même si on n'a pas d'attrait particulier, ou de compétences particulières, ou de connaissances particulières, au fond, ils aiment ça, ils sont passionnés, et bien c'est normal que l'Église soit là avec eux, près d'eux. Voilà, il faut que je termine assez vite. Alors, oui, un point naturellement qui est délicat aujourd'hui dans les responsabilités qui sont les miennes, les terrains où je me trouve, c'est que naturellement, quand on parle de patronage, il y a des réalités extrêmement différentes sous ces mots aujourd'hui. Vous voyez qu'entre un petit patronage, et il y en a beaucoup, hein, où on va avoir 20, 30 enfants le mercredi, et on n'a pas d'espace, donc on va faire quelques jeux de société, ou du bricolage, des petits ateliers, voilà. Et puis d'un patronage, je ne sais pas, comme le Bon Conseil, qui est un gros patronage, un patronage comme voilà, ce qu'on a dans notre congrégation, je pense que le patronage dont j'étais l'aumônier, vous avez le mercredi 140 enfants qui sont là. Hein, 140. Plus, vous rajoutez les animateurs, et le patronage est ouvert pas seulement mercredi, mais il est ouvert tous les soirs après l'école, et puis il est ouvert le samedi aussi, et puis le dimanche on est sur les terrains de foot, et puis toutes les petites vacances scolaires c'est ouvert du matin au soir. Et puis, bon, vous voyez, il y a des différences très sensibles. Nous, on a encore une fois des équipes de foot, du sport, au Bon Conseil, il y a plein aussi d'activités sportives préparées, présentées, proposé, il y a des grandes, grandes, grandes différences. Et je le dis là aussi avec beaucoup de simplicité, j'insiste, moi, dans cette dynamique de l'union des patronages, sur la dimension missionnaire. Missionnaire. Voilà. Et donc, il ne faut pas présenter les patronages. Certains insistent beaucoup là-dessus, sur le fait que ça propose un soutien scolaire, etc. Très bien, mais enfin, la devise des patronages, ce n'est pas ici, on prie, on travaille. Ben non, non, c'est ici, on joue et on prie. On joue, c'est ce qui est mis en premier. Ici, on joue. Ici, on fait du sport. Ici, tu vas pouvoir te défouler, te passionner avec tes copains. Ici, on joue. Et on prie. Mais ce qui doit être le premier, ce qui attire un jeune, surtout dans les milieux qui sont complètement déconnectés de l'Église, qui ne savent plus rien à rien, qu'est-ce qui attire ? C'est on joue, on fait du sport. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. Voilà. Et je soulignais ça effectivement parce que il ne faut surtout pas que les patronages se restreignent à la dimension de l'accueil des enfants du primaire. Voilà. Il y a beaucoup de patronages, c'est ça, hein, c'est simplement le primaire. Après l'école, le mercredi, bon, c'est bien, et c'est bien, et c'est très bien. Voilà. Mais, je repense à la chanson du beau frère, « Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long ». Il faut du temps. Voilà. Et donc, ben, on a eu l'enfant en primaire, il faut le garder à l'adolescence et le conduire jusqu'à ce qu'il soit un jeune homme chrétien, solide, enraciné. Il faut du temps. Et donc, là, au moment du collège, du lycée, si on n'a pas de proposition d'activité sportive, massivement, on perd les jeunes. Massivement, on perd les jeunes. Sauf peut-être les chrétiens archi-convaincus de familles chrétiennes, etc. Mais là, on n'est plus dans la dimension missionnaire. Dernière chose que je veux faire ressortir, le sport, le patronage, le sport. Ma maman, quand c'était au moment de ma profession de foi, m'avait offert un petit tableau où il y avait une phrase toute simple, qui était écrit « Avoir un fils, c'est bien, en faire un homme, c'est mieux. » Et je pourrais rajouter « En faire un chrétien, c'est mieux encore, évidemment. » Mais oui, l'importance sur le plan éducatif de faire des êtres structurés dans toutes leurs dimensions, quoi. Dans toutes leurs dimensions. Alors là, c'est une résonance parce que quelque part, c'est les milieux pauvres, tout ça, faut se battre. J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, tout ça, bon voilà. Hein, on est dans d'autres temps, mais qu'on n'ait pas des jeunes qui soient des mollassons, qui s'effondrent dès qu'il y a une difficulté, qui ne sont pas capables de tenir la route. Oui, le sport, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout de l'effort. On fait un match de foot, on perd 3-0, ben c'est pas pour autant qu'on se dit ben c'est fini, puis on arrête. Non, on va jusqu'au bout et on y croit jusqu'au bout, on se bat jusqu'au bout. Et vous voyez, quand on dit, et j'entends très bien, hein, attention dans le sport, hein, il y a celui contre qui on joue, entre guillemets, avec qui on joue, contre qui on joue, c'est pas un ennemi, ça va. Quelque part, Monseigneur l'évoquait dans sa causerie d'introduction, il y a l'adversaire, c'est un frère, d'accord. Mais ne minimisons pas le fait que dans le sport, ça nous apprend aussi à lutter contre un ennemi. Contre un ennemi. Non pas celui avec qui je fais telle partie de ping-pong, de basket, de foot ou quoi. Mais fondamentalement, ça m'apprend à me battre, et à me battre au bout du compte, hein, contre l'ennemi par excellence. Hein. On a un ennemi, hein, c'est Satan, c'est le diable, il faut se battre. Hein, on sait tout ça dans notre expérience personnelle. Voilà, je termine, je voudrais ici insister sur le lien que j'essaie d'établir autant que je peux et qu'il faut vraiment veiller à développer. C'est le lien, pour moi, naturellement, de la FSCF avec l'Église, Holy Games, entre autres. Et je me réjouis de voir ces petits, hein, que la FSCF, comme ça a été évoqué pour la Belgique, aussi en Autriche, l'Église, on n'en parle plus beaucoup, c'est beaucoup des clubs, tout ça, bon voilà. Il n'empêche qu'il y a toujours un aumônier national et qui dit son mot à chaque réunion du comité directeur, voilà. Et des initiatives en lien avec Holy Games qui ont été prises, hein, et dont je me réjouis beaucoup, le fait d'avoir été aussi Isabelle de Chatu parlait de ce petit livret qui était très très bien fait, la FSCF s'y est impliquée, je m'en réjouis. Il y a eu le pèlerinage des sportifs à Rome. Ah, le président de la FSCF y est allé, j'y étais avec Dominique aussi. Voilà, il y a quelque chose qui est là, c'est pas rien. C'est pas le top, mais c'est pas rien, ça fait son chemin. Et pareil avec l'union des patronages, eh bien, de faire en sorte que cette union des patronages donne une vraie place à la promotion du sport. Vraie place à la promotion du sport. Voilà. Il y aura, je pense peut-être que Céline le dira tout à l'heure, il y a un grand événement qui est envisagé pour vers la Toussaint 2026, de rassembler les patronages nombreux, etc. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit simplement un grand événement où, avec les enfants de nos patrons, on va faire des visites d'église et des visites primaires. Voilà. La dimension missionnaire est éminemment importante. Pardon, vous avez été un peu.